Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de donner le coup d'envoi d'une nouvelle semaine en votre compagnie dans Radio Foot sur RFI. Nabil, as-tu du cœur ? Nabil Bentaleb, je précise. Et oui, tu en as beaucoup, un cœur gros comme ça, un cœur exceptionnel à plus d'un titre, un cœur qui certes s'est arrêté d'un coup il y a 8 mois, un cœur aidé aujourd'hui d'un défibrillateur, mais un cœur qui t'a permis de revenir de loin, de très loin, de retrouver les terrains hier à la 76e minute. Avec ton club, Lille, 227 secondes plus tard, ton cœur a laissé sa place à tes pieds, à ton talent, pour un but lui aussi exceptionnel, un but qui fera date, célébré comme quelque chose de beaucoup plus grand. Nabil Bentaleb, tu as du cœur, tu as touché les nôtres hier. Bonjour Naïm Moniol.
Salut Hugo, salut à tous.
Bonjour Marc Libra.
Bonjour Hugo, bonjour à tous et à tous.
Et bonjour Franck Simon.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
J'espère que vous aussi vous avez du cœur, même Naïm. Pour ce qui s'est passé du côté de Rennes hier avec Nabil Bentaleb.
Pourquoi j'aurais pas de cœur, moi ?
Parce qu'on vous connaît.
C'est pas
vous n'êtes pas toujours le plus tendre.
C'est pas vrai du tout.
C'est pas joli, joli, Hugo.
Mais même vous, hier, vous avez, je pense, versé votre petite larme.
Non, je n'ai pas versé de larmes, mais c'est évidemment.
Vous avez ressenti quelque chose, au moins.
Évidemment qu'on est content que ces gens-là. Mais tu sais, le simple fait qu'ils soient en vie, déjà, c'est bien, c'est quelque chose. C'est comme Eriksen, on est heureux de les voir.
Exactement. Nous célébrerons aujourd'hui Nabil Bentaleb, grand joueur algérien et donc africain du championnat de France. Un homme, vous l'avez dit, qui a échappé à la mort pour vivre et nous faire vivre des émotions intenses. Au sommaire également ce lundi, encore un peu de Ligue 1, la course à la Ligue des Champions. Vos avis messieurs, l'Italie, la Juventus qui bat l'Inter Milan. Et un hommage à Pinto da Costa, président emblématique du football européen et du FC Porto en particulier. Radio Foot, Pierre-Olivier Guérin à la préparation, le maestro Laurent Salerno à la réalisation. C'est parti.
Qui cède sa place à Nabil Bentaleb. Et ça, c'est une super nouvelle pour lui, pour le LOSC et pour la Ligue 1. Le corner frappé, la tête, c'est superbe, l'arrêt incroyable. Mais derrière, qui marque ? C'est l'histoire du week-end, peut-être l'histoire de la saison. Le sourire, évidemment, pour Nabil Bentaleb et le bonheur partagé. Bentaleb ne devait plus rejouer au football. Il revient et 5 minutes plus tard simplement, c'est lui qui marque.
C'est un moment assez particulier pour moi. À la dernière minute, je ne sais pas si je vais rentrer. On me dit de rentrer. J'ai bossé très très dur ces derniers mois. Ma famille, franchement, c'est tout ce cercle très rapproché qui m'a permis de tenir pendant ces 8 derniers mois et me donner la possibilité de rêver à revenir un jour sur le terrain de football. Et quelque part, c'est pour eux que je le fais également.
Clairement, la 22e journée de cette Ligue 1 2024-2025 restera dans les mémoires. L'entrée en jeu de Nabil Bentaleb et son but pour lancer la victoire de Lille à Rennes 2-0. La première apparition d'un joueur équipé d'un défibrillateur sous sa peau en France suite à un accident cardiaque. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas médecin et nous ne sommes pas dans Priorité Santé sur RFI. Ce que je sais, en revanche, c'est que Nabil Bentaleb, après cet accident de santé très grave au mois de juin, il avait envie de revenir sur les terrains et il avait l'amour du jeu également dans la peau, l'émotion, dont vous parliez, mon cher Naïm Moniol. Je me suis un peu moqué de vous, mais je sais qu'au fond de vous, il y a un cœur également qui bat. Votre émotion d'hier, elle est redescendue.
Je prends pas pour Mireille Dumas des fois.
Mais ça va pas ou quoi?
C'est lundi, c'est terrible. Là.
C'est où? Ah,
j'avais plus l'habitude de ça.
Terrible.
Il croit que
c'est le haut niveau, c'est la Ligue des Champions, c'est les duels d'entrée.
Non, on est forcément heureux de le voir revenir, mais comme je vous disais, le simple fait qu'il soit en vie, moi si on m'avait dit il pourra plus jamais rejouer au foot, mais en même temps il reste chez lui avec sa femme, ses enfants, sa maman, ça m'allait très bien aussi, donc on est forcément content. C'est une histoire qui est extraordinaire, on aurait voulu l'écrire, on n'y aurait pas pensé. Il marque un but, en plus lui c'est un ch'ti hein, pour le coup, il est formé là-bas, alors même s'il a bourlingué dans beaucoup de clubs à Moucron, à Dunkerque, qu'il est passé par les jeunes de Lille. Ça avait été le joueur énorme de la saison dernière, faut pas l'oublier. Moi, Bentaleb, je vous le dis très clairement, ça avait été mon numéro 1 au Primark Vivien Fauré.
Il avait terminé sur le podium.
Et c'est un joueur dont on avait été vraiment tous choqués de ce qui lui était arrivé. Donc c'est bien qu'il revienne. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne revienne pas trop non plus, qu'il ne nous fasse pas une fin de saison en boulet de canon en se disant bah, « Lille a un gros calendrier, on va l'utiliser à fond, même s'il est suivi, même s'il a eu le feu vert du doc. » Qu'il reprenne tranquillement ses marques, qu'il revienne tranquillement à la compétition de très haut niveau. il joue avec un défibrillateur, ce qui par exemple est interdit en Italie. C'est pour ça qu'Eriksen avait quitté l'Inter pour venir à Manchester. Donc voilà, on est content de le revoir, qu'il revienne tranquillement.
Oui, parce que évidemment, l'autre exemple qu'on a en tête, et il paraît d'ailleurs que les deux joueurs se sont parlé parce qu'ils se sont croisés, me semble-t-il, ils ont partagé un vestiaire du côté de Tottenham il y a quelques années, c'est Christian Eriksen, victime d'un accident similaire lors de l'Euro 2020-2021, devant son public, un match à Copenhague avec le Danemark, et qui était revenu et qui poursuit sa carrière, qui est toujours à Manchester United, me semble-t-il,
oui,
Christian
Eriksen.
Qui fait partie
des meilleurs joueurs, hein, donc c'est pas pour vous dire.
Nabil Bentaleb a donc quelque part poursuivi ce chemin. En tant qu'ancien joueur, vous arrivez à vous mettre dans la peau de Nabil Bentaleb sur ce parcours du combattant. Là, l'expression n'est pas forcément galvaudée cette fois.
Non, mais là, c'est même pas un parcours du combattant, ça s'appelle un miracle, puisqu'on vous dit, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez plus jamais jouer. Alors souvent, de très grosses blessures, au niveau médical, on vous dit vous n'allez plus jouer. Le doc du club, il arrive, t'inquiète pas, dans 6 mois, tu joues. Mais c'est vrai qu'au niveau médical, mais lui, c'était très très grave. Et la chance de pouvoir évoluer avec un défibrillateur, je repense souvent à Steve Savidan, vous rappelez, qui a dû arrêter sa carrière du jour au lendemain, qui signe un très gros contrat à Monaco, qui a un problème cardiaque, qui a jamais plus joué, plus de licence.
Lilian Thuram.
Thuram, oui, et Loïc Rémy qui a eu ça aussi.
Mais Thuram avait déjà fait une belle carrière. Steve Savidan, c'était presque l'équipe de France.
C'était son premier gros club.
Gros club parce qu'il quitte VA, Monaco. Et ben pour lui, ça a marché. Je suis ravi de ce qui se passe. Après, encore une fois, je pense que, tu vois, Naïm, s'il a eu le feu vert, c'est qu'il peut jouer maintenant. Ouais, mais il a dû. J'imagine même pas ce qu'il a dû faire pour arriver à un niveau de rejouer en Ligue 1, c'est-à-dire depuis plusieurs mois pour essayer de... Parce que là, c'est des séances d'entraînement, c'est autre que du fractionné qu'on doit. Donc, je pense que son corps fonctionne très bien et surtout féliciter les gens qui ont pu faire ça.
Mais cette histoire révèle quand même quelque chose, c'est à quel point la médecine a progressé de manière incroyable. Incroyable, parce que même pour Eriksen, l'histoire de Bentaleb, ça s'est passé, on n'a pas vu ce qui s'est passé, on n'était pas là, mais Eriksen, le pauvre, il est décédé sur le terrain, il est revenu à la vie, mais
il est tombé devant le monde entier a vu l'image.
Et on arrive aujourd'hui ramener un mec qui a fait un arrêt cardiaque, puisque Savidan, Thuram, Loïc Rémy, on a décelé une anomalie cardiaque.
Lors des visites médicales,
heureusement
c'était dangereux.
Heureusement
dans le cadre de leur transfert.
Eux n'ont jamais été jusqu'au stade de faire un malaise et de perdre la vie, même si c'est quelques secondes.
Là, mais ces gens-là
ne pouvaient plus jouer.
Voilà.
Là, ces gens-là ont eu un malaise qui a mis leur vie en danger. Ils reviennent à la compétition. C'est-à-dire que d'un point de vue médical, ce qu'on est en mesure aujourd'hui de faire... Parce que Marc, il peut le dire, il n'est pas boucher charcutier, il est sportif de haut niveau, vous vous rendez compte la santé qu'il faut ?
Est-ce que, d'un point de vue observateur, vous êtes un fin connaisseur du football, Franck Simon, il n'y a pas une petite crainte que... vous voyez, alors c'est moi qui envoie les tirs,
c'est
et lui,
bien,
lui il vous envoie des petites tacles, des petits taquets par derrière, des petites
chinettes.
Franck Simon, est-ce que... Il n'y a pas la crainte que voilà on aille peut-être pousser les corps des footballeurs pour défendre des intérêts sportifs, économiques, à aller trop loin.
C'est déjà le cas, on l'entend. Il y a eu en début de saison des alertes lancées par des joueurs qui font qui jouent deux matchs, trois matchs parfois par semaine. Donc c'est une réalité concrète. Après moi, si vous voulez, je suis très heureux pour Bentaleb. Heureux de dire qu'on puisse parler de lui au temps présent. Parce que tout à l'heure, vous avez employé l'imparfait. J'en bégaye d'émotion. J'ai perdu des amis footballeurs, moi, dans cette histoire.
Vous en parlez également.
Et je ne m'en suis jamais remis. Hein. J'ai perdu l'un des plus grands talents du football arabe et africain, Hedi Benrakissa, qui était un petit gars qui était né à Marseille, qui était le défenseur axial de l'Espérance de Tunis. Puis qui est tombé, en fait, qui a fait un malaise comme ça, contre l'Olympique Lyonnais lors d'un match, tu sais, de milieu de saison, où l'OL va en Tunisie jouer l'Espérance, et en fait, Hedi tombe, et il était promis à une carrière extraordinaire. C'était un gars, en plus, avec une personnalité fantastique, mais il n'y avait pas les défibrillateurs. Plus près de nous, on a Marc-Vivien Fouet.
Oui. Celui qui a donné son nom au prix que Nabil Bentaleb a
donc tout remporter. Ça, évidemment, tout ça, je suis heureux de moi aussi des progrès de la médecine, mais tout simplement pour les gens, mais aussi pour les gens, quand je dis les gens, le commun des mortels, ce que nous sommes, mais aussi pour les sportives et les sportifs de haut niveau, Dieu merci à ça. Et puis nos stades aujourd'hui sont équipés de défibrillateurs. Il n'y a pas
partout,
un stade
partout,
qui n'est pas.
Partout,
donc,
partout.
Donc, tout cela va dans le bon sens. Après, vous avez dit tous les deux, Naïm et puis Marco, vous avez dit des trucs qui sont pour moi fondamentaux, c'est-à-dire, il ne faut pas crever la bête. Il est revenu, il a travaillé pour ça, mais lui donner le temps, et je pense qu'il a un entraîneur qui ne va, pas le, qui va pas le, peut-être pas lui tomber dessus. Et puis, je n'ose même pas imaginer la somme de travail,
oui, c'est...
l'investissement personnel, pas que physique hein, ou athlétique, hein, mais tout ça. Et ça veut dire que c'est un gars qui est exceptionnel à ce niveau-là.
Ah oui, pour revenir. Hein.
Ouais, franchement.
Quand je dis qu'il a du cœur, c'est pas seulement cet organe qui a failli vaciller fatalement il y a quelques mois, mais c'est aussi le courage, tout simplement, et une personnalité. Et on lui souhaite évidemment
une bonne suite du jeu, tout simplement.
Et on lui souhaite une bonne suite de carrière. On espère parler de lui pour des raisons uniquement sportives dans un avenir proche. Nabil Bentaleb, qui a donc permis au LOSC de s'imposer à Rennes 2-0 hier,
casser,
on reviendra.
Et casser peut-être ce qui allait être une série pour le Stade Rennais. Hein.
On va en parler pour Rennes, on va notamment parler de l'entraîneur du Stade Rennais dans quelques instants. Mais on va revenir à la compétition et à la Ligue.
Boga sur le côté, qui rentre intérieur, elle appuie sur Ndombele, qui va aller lui remettre dans la course. Oh, il y a un déséquilibre pour les Niçois. Jérémy Boga, le centre est parfait pour Sofiane Diop. Le GC Nice va aller prendre 3 points. Oh, combien précieux. 3 buts à 1 pour les Niçois.
Et derrière, Amine Gouiri. Amine Gouiri est parti. Gouiri face à l'Arseneur. Amine Gouiri a fait de l'OM son nouveau club de cœur.
Allez, merci messieurs, large succès, 5 buts à 1, on s'est régalé. L'OM conforte plus que jamais sa deuxième place.
Alors quand je dis on revient à la compétition et à la Ligue 1, Rennes fait partie de la compétition et de la Ligue 1, mais on va parler d'un autre championnat autrement plus intéressant, la course à l'Europe, à la Ligue des Champions. Lille a donc gagné en Bretagne pour se relancer dans cette bataille. Le problème, c'est que le LOSC, qui joue la Grande Coupe d'Europe en ce moment, n'est que cinquième de Ligue 1 et donc virtuellement trop court pour jouer cette Grande Coupe d'Europe la saison prochaine. Il faut dire que ça va vite devant. Marseille, Nice et Monaco ont fait le job ce week-end et même un peu plus que ça. 5-1 pour Marseille face à Saint-Etienne, Marc Libra, 3-1 pour Nice face au Havre, 7-1 pour Monaco contre Nantes. Entre parenthèses, quand les gros rencontrent les petits en Ligue 1 en ce moment, ça ne fait pas un pli. Les Lillois doivent aussi faire attention à Lyon, qui est juste derrière, 2 points de moins et une large victoire contre Montpellier. Ça se profile comment, selon vous, Naïm Moniol? Les Lillois, ils peuvent espérer retrouver le top 4 de Ligue 1, malgré l'avancée, le rythme effréné de ceux de devant?
Oui, parce que je pense que Monaco est une équipe très irrégulière. C'est pour moi des trois qu'il y a devant. Je ne parle pas de Paris, hein, mais je parle de Marseille, Monaco et Nice. Je pense que
parle du vrai championnat.
Hein. Oui, je parle des trois de devant. Monaco me paraît irrégulier. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que Lille arrive à faire des résultats à l'extérieur avec des joueurs manquants. Zegrova, il a disparu. Où est Jonathan David? Avec des joueurs peut-être un petit peu moins dedans, mais c'est tout à fait normal parce que on est quand même en mois de février, puis il y a encore une échéance européenne, au moins une. Mais Lille a la qualité nécessaire, devant, derrière, et un super gardien pour gratter les points qui, lui, là où Monaco a un pouvoir offensif décuplé avec Mika Diarrête, mais qui, pour moi, est une équipe moyenne. Enfin, je peux dire moyenne, mais très irrégulière, trop irrégulière, je pense. Et donc, Lille peut aller dans le top 4.
Marc Libra, est-ce qu'il y a vraiment des raisons de parler, on va dire, de la course à la Ligue des Champions, de la deuxième à la quatrième place? Parce que j'ai l'impression que Marseille, qui est deuxième, 5-1 contre Saint-Etienne, maintenant est sur rythme de croisière. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 2 places, finalement, pour la Ligue des Champions. La deuxième, elle est pour Marseille, c'est sûr, maintenant.
J'aimerais bien vous dire ça. Mais non, mais il reste quoi, 12 matchs, il reste.
J'essaie de vous porter l'œil.
Si on veut aller plus loin, aujourd'hui, quand on voit que Monaco a eu des petits soucis, ils se remettent dans le sens de la marche. Est-ce qu'ils ont digéré leur élimination en coupe? Est-ce que la Ligue des Champions, ben, on sait que ça peut-être s'arrêter face à Benfica. Lyon est de retour. Strasbourg, ça joue pas mal à Strasbourg aussi, donc potentiellement
Strasbourg
aujourd'hui.
Et Lens, c'est encore
on est d'accord, mais Lens qui a perdu, ces équipes-là pour moi aujourd'hui, alors certes Marseille a 6 points d'avance, il me semble, Paris 10 points, ouais. Après il y a 6 points derrière, mais ça va se jouer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Marseille va venir au Parc jouer, donc c'est là où peut-être ils vont recevoir Monaco. Donc tous ces matchs, Lille, ils vont croiser Lille.
Ils peuvent perdre des points, ceux derrière peuvent en
J'ai envie de vous dire qu'actuellement, ils avaient une série de 4 matchs qui n'étaient pas forcément évidents, c'est-à-dire c'était Angers, le match de ce week-end, pareil, c'est Auxerre et Nantes. Là, à l'arrivée, ils sont capables de Saint-Étienne, ils sont capables de faire le job. Mais est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? En début de saison, j'étais pas confiant. Ce qu'ils sont en train de faire est très bien. Après, je le juge de paix et l'exigence va être Paris ou Lille. Est-ce que là, ils vont faire la différence? Et ils seront encore dans la course pour être deuxième. Parce que pour moi, s'ils sont deuxième, au vu du début de saison et ce qui s'est passé, ça serait fantastique.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné, donc on a parlé de Marseille, vous avez parlé de Monaco,
Nice, tout le monde est là,
spontanément ou de Lyon.
Nice, c'est mais pas c'est super vrai que régulier non plus.
Mais c'est vrai que oh, mais c'est la meilleure équipe depuis 10-12 matchs.
Et ben, j'allais vous lancer sur Nice. Oui. Justement, j'ai l'impression qu'ils sont là, troisième. Ils sont en train d'avancer. Ils ont été ridicules en Coupe d'Europe, mais ils sont loin d'être ridicules en Ligue 1.
Ils l'ont peut-être fait exprès en Coupe d'Europe.
Ils l'ont l'impression.
Mais ils l'ont fait exprès. Quand tu vois ce qu'ils font en Coupe d'Europe et la semaine d'après et trois jours après en Ligue 1. Et tu sais qu'ils n'en ont plus rien à faire.
Oui, après, c'est dommage quand même de galvauder une Coupe d'Europe.
Ah, mais tu l'as vu, le niveau.
Nice, en fait, depuis 10 matchs, c'est ce que Lille était sur les premiers mois de la compétition. C'est l'équipe qui pratique le plus beau football. Ce n'est pas le plus gros effectif, mais c'est celle qui a un gros pouvoir offensif aussi, parce que ça met des buts à Nice. C'est sérieux, ça joue bien, il n'y a plus de Coupe d'Europe. Donc, ils vont se retrouver comme Marseille, là où Monaco peut retourner Benfica, là où Lille peut taper l'Atalanta et se retrouver avec un avenir européen plus important sur mars, sur avril. Donc, Nice, ils peuvent y être. Et puis, cette quatrième place qui, de toute façon, permet à un club de pouvoir y aller en plus. Et moi, là aussi, comme pour moi, Monaco est une équipe qui me paraît un peu trop irrégulière pour essayer pour se fidéliser comme Marseille dans le top 4, je pense que Nice a aussi la place d'y être.
Et c'est Monaco alors qui serait en danger? Vous êtes d'accord avec ça, Franck Simon? En danger parce que Lille revient. Alors Lille qui a eu, on parlait des calendriers dantesques, c'est l'équipe avec le calendrier dantesque parce qu'elle est encore en course en Ligue des Champions, mais elle est passée par les tours de qualification. Ce LOSC, là, il s'est remis dans le droit chemin, si je puis dire.
Mais j'ai tendance à penser depuis bien, bien longtemps que quand vous êtes engagé en compétition européenne, en l'occurrence en Ligue des Champions, vous laissez des plumes. Vous baladez pas les matchs d'après. Il y a un moment donné où il y a un petit creux peut arriver et c'est pas évident hein, que pour moi Monaco ils sont dehors là de toute façon en Ligue des Champions vu ce qu'ils nous ont montré l'autre jour c'est bâché.
Dehors de l'actuelle Ligue des Champions mais dans la course à la prochaine.
Dans la course à la prochaine une fois qu'ils vont être délestés de ce poids de la Ligue des Champions ils n'auront plus que ça finalement enfin. C'est quelque chose de
et c'est
très...
un club qui sait finir fort.
Oui,
Monaco,
voilà, c'est là-dessus, que je mise. Après, effectivement, tu passes d'un match contre Benfica où c'était franchement c'était minable. Hein.
Oui.
Là, un début de match où tu te fais quand même un petit peu marcher
mais
dessus.
La première mi-temps n'est pas terrible contre Nantes. Hein. Moi, je suis bien d'accord.
Exactement.
Puis derrière, ils se font bouger.
Le score est en trompe-l'œil. C'est pas une prestation.
7.
Oui, 7. Oui,
alors,
7.
Justement, parce qu'on parle de clubs là, qui ont plus ou moins brillé sur la scène européenne, mine de rien, en Ligue des Champions, tout le monde a passé le premier tour, donc c'est pas inintéressant. On a ce top 4 qui semble vraiment se détacher du reste du championnat, puisqu'il y a des larges victoires. Il n'y a pas d'enseignement là sur, on va dire, une élite vraiment française qui se détache?
Une élite, oui et non, parce que j'entends ce que tu dis sur la fracture... Au niveau dans le championnat, tu as 5-6 devant, puis derrière.
Et les bons résultats en Coupe d'Europe peuvent l'accentuer parce que maintenant, c'est de là que vient l'argent.
Dans ce premier tiers de championnat, est-ce que Nice est à sa place? Est-ce que Strasbourg doit être là? Est-ce que Lens doit être là?
Métrier qui est à la place?
Je pense que Lyon, normalement, devrait être plus haut. Je pense que Lille devrait être
un peu plus haut. Lyon risque de remonter.
Mais c'est très irrégulier.
Là, aujourd'hui, on est aux deux tiers du championnat. On parle d'écart, mais Paris est devant avec 10 points d'avance.
Et Paris est invaincu.
Sans invaincu.
On sait très bien qu'il y a un peu un championnat
presque,
à 17 équipes et Paris.
De dire qu'on a progressé, alors oui, c'est super, on a une nouvelle formule, donc on a 4 équipes. Brest a créé la surprise et Lille avec des joueurs, entre guillemets, qui étaient blessés, ils ont fait avec, c'est eux qui sont sortis et Paris nous a fait peur. Mais à l'arrivée, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que Paris est devant sans forcer avec 10 points. Et peut-être que le meilleur arrive pour Paris encore. Parce qu'ils sont en train de monter en puissance. Et que là, ils vont laminer tout le monde, en fait.
Ce championnat est très bizarre. Parce que finalement, si vous prenez les équipes qui ne sont pas européennes, mais qui talonnent les places européennes, ça change en l'espace de 2 semaines. Il n'y a pas si longtemps que ça. Auxerre était 8 ou 9e. Et on disait, Auxerre, pour un promu, c'est pas très loin. Puis finalement, on n'en parle plus trop. Toulouse est pas trop mal.
Et t'as Brest qui est revenu aussi.
Voilà.
T'as Brest qui est pas loin.
Brest est revenu. En première partie de saison, Reims était pas loin. Puis Reims sont quand même sur une dynamique, ça fait un peu peur. Donc en gros, ça peut bouger Strasbourg aujourd'hui. Et pourquoi
ça dure combien de temps ces dynamiques?
Voilà, en fait, c'est ça.
Mais Strasbourg, c'est pas mal. Oh.
Ça
Attention.
Bouge beaucoup sur ce ventre mou, parce qu'aujourd'hui, tu as les 3-4 de devant, les 3 de derrière, les 4 de tout au fond, là, qui sont quand même bien en deçà. Et après, ça bouge d'un truc à l'autre. Mais au final, avec 4 Européens, enfin 4 équipes en Ligue des Champions, un en Ligue Europa, un en Conference League et potentiellement une 8e place qualificative si c'est un des 7 premiers qui gagne la Coupe de France, tu vas quasiment envoyer une moitié de tableau en Coupe d'Europe. Donc, quelle que soit la place où tu es, tu peux être européen aujourd'hui en Ligue 1. C'est pas une bonne chose, hein. Je te le dis comme je le pense. Pour moi, c'est pas une bonne
chose. Qu'est-ce que c'est romantique le système de qualification pour les Coupes d'Europe quand on l'explique
c'est quasiment comme du top 14, le 7e,
sauf la Coupe de France, c'est superbe. Merci à tous nos dirigeants d'instance. On va revenir à Rennes-Lille. Mais on va descendre au classement parce qu'on ne va plus parler du LOSC. On va surtout prendre des nouvelles d'un ami de la maison, un ancien consultant, un ancien collègue à vous, messieurs, qui connaît ses premières difficultés en tant qu'entraîneur de Ligue 1. Habib Bey avait gagné ses 2 premiers matchs dans l'élite française et il vient de perdre le 3e.
Je pense qu'on est tombé face à une équipe qui a montré énormément de maturité. On a dû un petit peu ajuster notre système, surtout sur une logique de pression. Ils arrivaient quand même à beaucoup sortir et à nous sortir de l'axe pour nous faire mal. Je pense que le fait d'avoir régulé un petit peu cette situation nous a permis de moins être en difficulté sur l'intérieur du terrain. Mais ils ont constamment été capables de maintenir une maîtrise supérieure à la nôtre. On a pu se retrouver en capacité de les faire reculer. Peut-être pas assez dans ce match-là pour les faire douter surtout. Et donc ils ont toujours été dans une forme de contrôle et nous, ce contrôle-là, on n'a jamais été trop en capacité de le reprendre. On se rend compte que c'est une équipe qui a été meilleure dans la maîtrise, meilleure dans l'occupation du terrain et puis dans cette capacité à nous faire courir et de trouver tous ces espaces et cette supériorité numérique.
En toute objectivité, il parle bien, ce Habib Bey, technicien sénégalais. Déjà, sur sa communication, il a l'air de s'inscrire un petit peu dans la lignée des entraîneurs comme Pierre Sage ou je sais pas, Genesio, c'est-à-dire qui arrive, si vous voulez, dans des conférences de presse et qui vous explique assez clairement ce qui s'est passé, ce qu'il pense du match. C'est pas le cas de tous les techniciens, non?
Si on suit un peu le foot, on ne lui pose même plus de questions, on lui dit merci, au revoir. C'est-à-dire qu'il vous a expliqué clairement qu'il a une équipe d'expérience qui les a pressés très haut, que Habib a essayé de mettre 2 trucs en place. Eh ben, l'entraîneur en face, Genesio, l'a éteint de suite et que Samba le sauve, autrement à la mi-temps, c'est déjà plié.
Qu'est-ce qui vous a fait rire dans ce que je disais? Vous ne trouvez pas qu'il est clair?
C'est vous, honnête.
On se moque de moi, mais non, je suis là pour ça, je suis payé pour ça.
Non, Hugo, non. Non, c'est la référence à Pierre Sage.
Son ancien collaborateur.
Qui est son ancien collaborateur. Donc, s'il s'inscrit, c'est plutôt Sage. Je pense que
c'est plutôt
dans l'autre sens, je pense.
Que Sage a montré l'exemple en Ligue 1. Parce qu'il est d'avant,
l'entraîneur du Stade Rennais, aujourd'hui, il n'est pas critiquable, effectivement, dans son expression, dans sa communication. Il maîtrise ça très, très bien. Il le maîtrise en présentation. Il sait derrière ce qu'il va pouvoir envoyer en synthèse. Et il le fait très bien avec des termes bien choisi et voilà, on retrouve l'homme qui a commenté toutes ces saisons au plus haut niveau en Ligue des Champions.
Mais le technicien Naïm, est-ce qu'il ne s'est pas un peu trompé hier? Est-ce que c'est simplement une défaite logique parce que vous affrontez...
C'est le dernier quart d'heure.
Il s'est fait critiquer pour son coaching.
Oui, mais parce qu'il faut toujours trouver quelque chose à dire. Non, mais c'est pas que je veux le défendre parce qu'on l'aime bien, parce qu'on a bossé avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait faire de plus? Lille est une des meilleures équipes du championnat. Il a tenu quasiment 80 minutes.
Contre une équipe qui est en Ligue des Champions.
Équipe qui est en Ligue des Champions, son gardien arrête un penalty. Faut pas oublier qu'il a récupéré un effectif qu'il n'a pas choisi, parce que Rennes a déjà changé 2 fois d'entraîneur. Il y a eu 2 entraîneurs avant lui.
Un directeur sportif qui a fait venir pas mal de monde.
Moi, je pense qu'il est en train de dessiner quelque chose. Jacquet Brassier, c'est lui, il avait démarré contre Strasbourg avec Fourou Hachi. Bon, finalement, il l'a fait sortir sur les 2 derniers matchs. Donc Blas, il a mis Koné devant la défense. Il est en train de mettre ses armes à lui, ses joueurs à lui.
Plus tard dans la saison, tu sais, peut-être qu'il serait en capacité de battre le LOSC. Hein.
Lille est supérieur. Il a réussi à prendre des points sur Strasbourg et Saint-Etienne, donc sur des équipes moins fortes. Les deux prochains matchs, si je dis pas de bêtises, c'est Reims et Montpellier avant Paris. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre des points sur Reims et Montpellier. Je crois pas que Rennes soit concerné par le maintien.
5 points d'avance sur le premier barragiste devant Reims, justement, ouais, Rennes. Donc c'est bon, à la limite au moins ça c'est assuré.
Quand il prend les Rennes, ils sont mal barrés, parce qu'il a fait 2 matchs de victoire, il a pris 6 points. Levez-lui les 6 points, on fait quoi? C'était compliqué pour Rennes.
Bien sûr.
De toute façon, quoi qu'il arrive, on l'avait dit quand il a été nommé, il ne pourra pas être tenu pour responsable de ce qui s'est passé à Rennes.
On pourra le juger l'année prochaine.
C'est un problème à la fois de recrutement, peut-être même de choix d'entraîneur avant lui, du choix des joueurs. Enfin là, c'est un effet domino, il prend tout en cascade. S'il maintient Rennes, même premier non relégable, on peut ouvrir le champagne là-bas, je vous le dis.
Allez, un peu de musique dans Radio Foot sur RFI, puis... De l'autre côté, on parlera de la Serie A, de Thiago Motta, de Randal Kolo Muani et de la Juventus Turin qui a battu l'Inter Milan.
stock à prendre des faits. Bisous, ligne avancée. De loin, ça palpine. Oh là là, j'en passe. Vous autres, nous, c'est ta Chine. Trois paroles
de Naïmoniol, il ne fait pas partie de ce morceau de Célia Wa.
J'aurais pu.
Démounage. Voilà, notez bien la référence au cas où vous voudriez écouter cette magnifique chanson sans être embêté par le rire narquois sardonique de notre ami Naïmoniol dans Radio Foot sur RFI.
Elle a changé cette émission.
Nous avons éteint quand même cette équipe de l'Inter sur le papier. Même sur la pelouse de la Juventus.
Juventus Inter per la quinta giornata di ritorno del campionato.
On dal colombo di la roulette, la deuxième, la frontière est revenue. Qui s'est imposé 1-0. Ils ont été dans cette deuxième période phénoménaux, les hommes de Thiago Motta.
Juventus 1, Inter 0.
Un but de Conceição, Francisco Conceição. On parlera peut-être de son père Sergio, qu'on connaît un peu mieux dans un instant, mais surtout sur cette action décisive. Il y a une passe décisive du redoutable de Randal Kolo Muani, pardon, qui revit, couvé par la vieille dame après son échec à Paris. Succès 1-0 donc de la Juventus Turin contre l'Inter à l'occasion de la 25e journée de Serie A. Ça vous a inspiré cette victoire de la Juve, Marc Libra? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté de Turin? Quatrième succès de rang, quatrième place seulement au classement, mais il y a peut-être un huitième de finale de Ligue des Champions qui se profile également. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se lance? Une ère Thiago Motta qui est en train de se lancer à Turin.
Thiago Motta ou Kolo Muani? Parce que depuis qu'il est arrivé, c'est 6 buts. Je crois que c'est... c'est non, mais en fait,
alors, 5 buts en 3 matchs de Serie A et sa première passe décisive hier.
Voilà, pardon.
Mais l'action, c'est un peu plus qu'une simple passe décisive. Parce
oui,
qu'il fait une roulette et tout.
Râteau, roulette. On pense qu'il a perdu le ballon, puis il décale pour Conceição qui va frapper pied gauche. Est-ce que c'est l'élément qu'il manquait à la Juve? En tout cas, hier, sur la rencontre, on assistait à un bon match. Mais l'Inter doit faire la différence. C'est-à-dire que l'Inter ne doit jamais perdre cette rencontre. Et ce qui fait défaut, c'est que Thuram était remplaçant, il rentre. Lautaro Martinez a 2-3 occasions dans un plat du pied.
Thuram, celui de l'Inter, parce qu'il y a un autre Thuram en face, du côté de la Juve, il faut préciser.
Voilà, non, mais l'attaquant, il y a un plat du pied de Lautaro Martinez. Enfin, il y a 2-3 occasions où, à une période, quand l'Inter est champion, ça rentre tout le temps. Et là, vous êtes dans le coup, vous n'y arrivez pas. Et la Juve, ils ont su faire ce qu'il fallait, quoi. Mais je pense que Kolo Muani a apporté peut-être. Oui. C'est Vlahovic qui est maintenant sur le banc, qui Non mais on parle du et nous on parle de quelqu'un qui en France il est nul.
Tous les mecs vont raconter
était tricard. Donc ça prouve bien que dans des clubs
pire que ça.
Oui mais je vais être poli parce que donc tu vois bien que maintenant c'est que le gars il ne sent pas bien dans le club, il était pas bien, il va à la Juve qui est un très grand club. Le mec, il marque but sur but, il fait des passes, il fait la différence. Voilà,
donc les anciens parisiens font le bonheur de la Juventus Turin, Kolo Muani, Thiago Motta, Franck Simon.
Ben c'est une chose, mais surtout si on veut, là on est en train de focaliser sur cette performance, parce que pour moi c'en est une, franchement, compte tenu de l'adversaire, Si tu t'éloignes un petit peu comme ça du match, tu te dis c'est eux qui ont fait la meilleure opération du week-end. Parce que je pense que vous allez y revenir.
Le nul n'arrangeait personne. En plus. Ah non, le nul, ça sert à rien. Pour l'Inter et tout, c'est une horreur.
Tous ceux qui étaient au-dessus de la Juve n'ont pas vraiment avancé. Donc du coup, pour eux, c'est tout bénéfice. Ils sont dans une vraie dynamique. Moi, je crois beaucoup à Thiago Motta. Et après, c'est vrai que il a su sans doute aussi trouver les mots, parce que c'est pas que de la technique et de la tactique. C'est aussi trouver le discours, la façon de gérer le type, parce qu'il fallait le gérer quand il est arrivé. Et visiblement, ce garçon, aujourd'hui, il est capable de
super former.
Un dernier mot sur la Juventus, avant de parler un petit peu de l'Inter et de ce qui se passe un peu plus haut au classement. Naïm Oniol, il y a une reconstruction après l'ère Allegri, c'était un petit peu morose du côté de la Juventus. Thiago Motta, ça n'a pas été convaincant tout de suite. Est-ce que là, il y a quelque chose qui se lance ?
Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se lancer, dû au fait que l'arrivée de Colomouani, je l'avais souligné quand il y a été il y a trois semaines, c'est qu'elle va permettre à certains joueurs de retrouver leur place, notamment Coupe Miners. Et si vous prenez la belle dynamique de la Juve depuis 3 semaines, Coupe Miners, il est devant la défense, à côté de Thuram ou à côté de Locatelli. Nicolo Gonzalez se joue sur un côté, Conceição est plus libre, lui se balade et on retrouve un secteur offensif.
C'était la pièce qui manquait donc.
Ouais, je pense qu'en l'occurrence que Vlahovic, c'est un garçon qui a un gros point de fixation avec un physique monstrueux, mais qui est beaucoup moins mobile que Colomouani, qui sait dribbler, qui est mobile, qui court vite. Donc, on va dire que la Juve a un secteur offensif plus technique, plus surprenant pour l'adversaire, même si je rejoins entièrement Marc sur le fait que l'Inter aurait dû mener 3-0, parce qu'il y a quand même deux poteaux de l'Inter.
C'est vrai.
Et je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose. Je ne suis pas inquiet pour la qualification de la Juve en Ligue des Champions, parce que quand même, juste rappeler que la Juve n'a qu'une seule défaite cette saison, hein, c'était Naples il y a 3 semaines. Mmh. Pour le reste, hein, c'est quand même plutôt pas mal, c'est la deuxième défense d'Italie. Donc j'espère pour la Juve qu'il se passe quelque chose, mais il faudra recruter derrière.
Le match nul de Naples contre la Lazio, dans un autre choc, on va dire, de haut de tableau, Naples leader. Et finalement, ça fait un peu les affaires quand même de l'Inter. Malgré la défaite, l'Inter n'a que 2 points de retard sur le Napoli à la deuxième place. L'Inter, c'est un peu particulier quand même. C'est censé être le meilleur club d'Italie ces dernières années. Champion en titre, club finaliste de Ligue des Champions il y a 2 ans. Qualifié pour les huitièmes de Ligue des Champions. Oui, mais qui, là, gère mal la fin d'hiver parce qu'on est sur un succès sur les 4 dernières rencontres, Marc Libra.
Oui, mais après, il faut pas. Depuis le mois de juin, ils sont sur le terrain, les mecs. Et tu repars avec une équipe quand on a Salah qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis après Sadio Mané, 3 ans, 4 ans. Enfin, Lautaro Martinez, il a été relancé aujourd'hui. C'est peut-être Thuram qui a apporté énormément en début de saison, qui a plus de mal actuellement à revenir à son meilleur niveau. Même si quand il rentre, on a failli avoir un but, mais bon, il y avait faute, il accroche, il y avait faute. Mais après, l'Inter. Que le Napoli soit là aujourd'hui et fait ce genre de choses, ouais, c'est très bien. Mais moi, je pense que l'Inter est encore une équipe qui est capable d'aller conquérir le titre, vraiment.
Et l'Inter qui avait été champion avec Antonio Conte, tout comme la Juventus Turin, et Antonio Conte qui entraîne le Napoli et qui mène rien, mène un train d'enfer. Il y a aussi l'Atalanta qui est pas très loin, qui est encore là, cette équipe qui n'est plus une surprise.
Toujours.
C'est intéressant, la Serie A. Mine de rien.
Ça fait des années que je le dis, que tout le monde me tape dessus en disant
Ah oui, on vous tape dessus, oui, c'est.
Surtout
Hugo. Hugo, il me déteste.
Hugo, tout le temps. Il t'aime pas.
Il me l'a dit, avant
l'émission.
Il m'a craché dessus avant-hier. Là. Mais non, mais évidemment que l'Italie, elle est fantastique, que la Serie A et machin, on a quand même mieux depuis 4-5 ans, plutôt que d'avoir la Juve qui a été 9 fois championne et qui, des fois, en février, s'était torchée.
Sans compter les performances européennes,
voilà.
Les finales.
C'est évidemment bien.
De l'Atalanta, les victoires.
Et puis, il y a des équipes. Ça joue bien quand on parle de l'Atalanta.
Là, c'est Milan qui est de retour.
De la Lazio. C'est des équipes qui jouent bien au foot. Évidemment que ça ne peut pas être champion d'Europe. Enfin, l'Inter n'était pas loin. Mais bah parce que il y a la concurrence anglaise, il y a les Espagnols. Ça joue bien. Il y a du suspense. C'est intéressant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est capitaliser là-dessus pour aller de l'avant. L'Atalanta, ça fait pas loin de 10 piges maintenant. Enfin, bien 6-7 ans, parce que ça date d'avant le Covid, hein, l'Atalanta quand même. Hein.
Notamment donc, pendant la Ligue des Champions version
Covid. Il y a bien 7-8 ans quand même que c'est une équipe très intéressante. Ça fournit des joueurs à l'équipe d'Italie, ce qui est quand même une bonne chose aussi, parce qu'ils sont quand même un peu en galère à ce niveau-là. Donc non, la Serie A est un très bon championnat.
C'est peut-être qu'économiquement, ça va mieux aussi.
Je suis pas sûr que ça.
Ils arrivent toujours à faire venir des joueurs de talent, ça c'est une certitude.
Tu sais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des super techniciens en Italie. On ne le met pas suffisamment en avant.
Et plus offensif qu'on ne veut le.
Maintenant,
Le croire ou qu'on l'a longtemps pensé. La Juventus de Turin a-t-elle lancé sa saison en battant l'Inter Milan ? L'avis des auditeurs chaque lundi dans Radio Foot.
Bonjour à l'équipe de Radio International, c'est Dubsam depuis Kursalambata, Sénégal. La Juventus est sur une phase descendante parce qu'on voit les résultats en Ligue des Champions. C'est en dents de scie et même en championnat, il ne convainc pas. La Juventus est en déclin.
C'est Benin Guta depuis la ville de Kinshasa. Pour ce week-end, les matchs qui m'avaient beaucoup plu, c'est la rencontre entre Inter Milan et la Juve. Les hommes de Thiago Motta ont prouvé qu'il allait très très bien. Et surtout, avec l'arrivée de Colomouani, tout est changé.
Voici Abdoulmadji depuis la République du Tchad. Honneur à la vieille dame qui revient en forme avec 3 victoires consécutives. Et là, il vient de battre l'Inter de Milan. Et donc, la Juve qui revient dans le Big Four. Alors, ce qui est en ballon chez eux, c'est pas leur jeu et tout, mais c'est leur hymne. Juve, storia in grande amore.
Les auditeurs de Radio Foot ont du talent, on l'a entendu, y compris en chant. Ils ont des avis chaque lundi dans Radio Foot. Le numéro pour nous envoyer une note vocale sur WhatsApp, il est sur la page Facebook de notre émission.
Chouari, but, but de Rabat-Majeur. Rabat-Majeur, du talon. Quel but de Rabat-Majeur.
La Ligue des Champions cette année sera donc portugaise. Et José Mourinho peut quitter le club, le devoir accompli. Il a réussi en 2 ans à leur faire gagner 2 Coupes d'Europe, l'UEFA l'année dernière et la Ligue des Champions cette année.
And Porto have won the UEFA Europa League. André Villas-Boas celebrates.
Porto, 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 Porto.
L'un des présidents les plus emblématiques et les plus titrés de l'histoire du football européen, mais pas que, Pinto da Costa, qui était le capitaine à la barre d'un grand navire, le FC Porto, durant plus de 40 ans, nous a quittés. Porto, avec lui, sous sa présidence en tout cas, a remporté 68 titres, dont 2 Ligues des Champions. On a entendu des extraits de commentaires, Rabat-Majeur, la Majeur, face au Bayern Munich, c'est ça, en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1987. Mourinho qui bat avec Porto, Deco, Alain Hitchcock, Benny McCarthy évidemment.
Paul Ferreira, ouais. Manish,
mais en 87,
Victor,
c'est
Bayer.
Arthur Georges.
Ouais. Arthur Georges sur le banc, Mourinho sur le banc en 2004 contre Monaco, 3-0 du côté de Gelsenkirchen, c'est ça, ouais. Le stade de Schalke 04. On peut parler des Europa League 2, remportés par Mourinho, puis par un certain André Villas-Boas, 2011, un triplé fabuleux.
Une victoire
fabuleux.
3-2 contre le Celtic.
André Villas-Boas.
Ouais, figure-toi, c'était en Irlande, à Dublin.
Ouais, avec un Henrik Larsson qui jouait au Celtic. Ouais.
André Villas-Boas qui est devenu l'année dernière le président du FC Porto à la place de Pinto da Costa, en battant Pinto da Costa
et en
trahissant
les...
peut-être ouais, son père d'adoption.
Il a trouvé le club dans une situation économique quand même assez
l'héritage dramatique. De Pinto da Costa, 68 titres à la présidence du FC Porto. On en parle avec un journaliste spécialisé dans le football portugais, Gary de Jesus. Bonjour Gary.
Boa tarde a todos. Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. On remercie Saliu Diouf qui nous a mis en contact, le formidable Scottie Pippen de l'été olympique de RFI. Gary, Pinto da Costa, j'imagine que du côté de Porto, on est inconsolable. C'est vraiment une figure paternelle. C'est le patriarche qui s'en est allé.
C'est ça, c'est la figure emblématique, qui est l'une des figures emblématiques la plus forte du football portugais qui est partie. Aujourd'hui, c'était les obsèques hein, de Jorge Nuno Pinto da Costa à 87 ans. Et c'est des images très fortes qui, toute la journée, rythment l'actualité des télévisions portugaises et des chaînes de news. On le voit à partir ça a commencé ses obsèques à l'église. Il a fait un arrêt dans le stade où on a vu son cercueil autour de tous ses trophées. Donc c'est des images très 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 fortes et qui marqueront, c'est sûr, le football portugais à jamais. Et pour vous expliquer à quel point Nuno Pinto da Costa c'est une figure très très forte, aussi avec quelques polémiques, hein, parce que on va pas se refaire. Le football portugais est marqué aussi tout au long de sa vie par des polémiques. Mais c'est une sorte de Jean-Michel Aulas, mais avec 2 Ligues des Champions et 2 Ligues Europa en plus pour le FC Porto. Il a vraiment marqué toute une ère dans le football portugais.
Et Gary de Jesus, je crois que Marc Libre a envie de réagir. Jean-Michel Aulas mélangé à Loulou Nicolas, mélangé à Bernard Tapie. On peut aller jusque-là.
Exactement.
Mais pour moi, ça, vous vous rappelez Tapie. Tapie, pour moi, peut être cet homme-là. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que Tapie a porté la seule Coupe d'Europe en France et à Marseille. Il est enterré à Marseille.
Le football
c'est
portugais avait déjà remporté des Ligues des Champions grâce au Benfica.
On est d'accord. On est d'accord. Mais ce qu'il a fait, lui, dans ce club, ce qu'a fait l'empreinte de Tapie, alors Tapie, c'était beaucoup plus court. Lui, c'est 42 ans, ce qu'il a fait. 42 ans. Alors oui, il y a des affaires. OK. Mais on va. Aujourd'hui, ce qui a été fait autour de lui. Et la seule chose, la question que j'aimerais poser à Gary, peut-être que tu le sais, déjà je suis content de t'entendre, ça fait un moment que je ne t'ai pas entendu. est-ce que Villas-Boas était là?
Oui, bien sûr, Villas-Boas a rendu hommage.
Oui, mais il n'y avait, avait pas un courrier comme quoi dans le testament qui est le président ne voulait pas qu'il soit là? C'était vrai ou pas ça?
C'est un peu le fils qui a trahi le père en prenant la présidence.
Il avait très mal pris, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, FC Porto était dans des conditions assez particulières économiquement. Il y avait aussi des pressions avec les ultras qui venaient mettre un peu qui venaient faire un peu des problèmes pendant les diverses assemblées générales du FC Porto. Il y avait beaucoup de problèmes qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant. Mais non, André Villas-Boas était là. Il a fait le voyage. Mais par contre, lui, à l'arrivée, il était triste de pas avoir de message, parce qu'on va pas se refaire, le football portugais est toujours plein de polémiques. Il était triste de pas avoir vu de message des concurrents, des rivaux de Lisbonne, du Sporting et de Benfica, qui ont même pas fait un message sur les réseaux sociaux et qui étaient même pas présents lors de l'enterrement.
Gary de Jésus, est-ce que ça veut dire que à l'échelle du Portugal, donc en dehors de Porto, Pinto da Costa, un peu comme certaines figures qu'on vient d'évoquer dans le football français, il faisait pas l'unanimité? Et est-ce qu'on en revient un peu aux polémiques?
Mais non, entre guillemets, mais ils font l'unanimité quoi qu'il arrive.
Bien sûr. Il y a des polémiques toute la journée. Il y a.
Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui fait que c'est une figure controversée?
Alors, il y a eu pas mal de phases de corruption qu'il y a eu dans les trois gros. Hein, de toute façon, il y a le cas du sifflet doré qu'on appelle au Portugal, le cas du Wapit Dourado où il a été ensuite les accusations ont été levées, mais il y avait eu des preuves ou des écoutes de lui parlant à des arbitres avaient été diffusées à la télé portugaise, donc c'était allé assez loin. Après, ces écoutes n'avaient pas pu être utilisées dans le procès et finalement, les accusations avaient été levées, mais tout le monde le sait. Qu'il a été mouillé dans ces histoires et ça a fait beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de tensions avec l'arbitrage, avec les relations entre les trois gros au Portugal. Il y avait des pressions et des rivalités constantes à un niveau qu'on ne peut pas imaginer en France. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est le thème principal. C'est bien sûr, on rend hommage à Jorge Nuno Pinto da Costa, mais on met aussi en avant, il y a les pro Benfica, les pro Sporting qui tout de suite mettre en avant les phases un peu plus sombres du président du FC Porto. Et ensuite, on souligne le fait qu'ils n'étaient pas présents aujourd'hui, qu'ils n'ont même pas eu un geste de respect.
C'est pas classe du tout.
Ça, c'est pas joli. Attendez, pas tous en même temps. Franck Simon, c'est un peu là. Oui, Gary de Jésus, allez-y. Pardon.
Il y a aussi une interview qui est ressortie de Nuno Pinto da Costa qui dit qu'il ne voulait même pas qu'il soit là. Donc vous imaginez la complexité de tout ça.
Et est-ce que ce n'est pas la fin du nerf? Alors pour le meilleur comme pour le moins meilleur, on avait parlé il y a deux ans de Berlusconi qui a disparu aussi. Bon, c'est Bernard Tapie, évidemment, c'est la fin du nerf dans le football européen aussi.
C'était déjà la fin du nerf dès le moment où. Il a dû passer la main, il a été battu avec, on va parvenir.
Mais ces personnages racontent un autre football européen, peut-être.
Bien sûr, parce que
notre gouvernance des clubs.
Les souvenirs qu'on a, parmi les plus vieux, moi je me souviens du Porto d'avant 87, hein, celui qui est finaliste en Coupe des Coupes contre la Juventus, justement. C'est déjà, en fait, Pinto da Costa qui est là. Et toute l'histoire, en fait, de 20e siècle, fin de 20e siècle, tous ces titres, cette construction, tous ces internationaux, le nouvel essor du football portugais, il doit beaucoup à cet homme, malgré tout ce qu'il a pu traîner derrière lui.
Et l'essor du football portugais, Naïm Moniol, peut-être que vous pouvez m'éclairer là-dessus. C'est pas juste sur le terrain, parce qu'en coulisses aussi, les transferts, les réseaux, les agents, les directeurs sportifs, souvent passés par Porto, comme Jorge Campos.
Au Portugal, rien ne se fait. Au Portugal, sportivement, politiquement, économiquement, rien ne peut se faire sans le FC Porto. qui, même si c'est Benfica, le club historique, est quand même celui qui a une régularité monstrueuse en Europe. Il ne faut pas oublier que c'est lui, son club a été la porte d'entrée pour les je ne sais combien de générations de Sud-Américains qui ont
acheté
ensuite
une
été
bouchée de pain revendus.
Voilà, quand on caricature que Campos trouve un Péruvien sous un caillou.
Mais aussi la fameuse TPO.
La TPO, voilà. C'est-à-dire que
quand un joueur n'appartenait pas seulement à un club, mais aussi à d'autres agents économiques.
Ah, il appartenait même à des entreprises. Oui, voilà. En fait, il pouvait appartenir à une entreprise, à deux agents en même temps. Donc, et pour ça, Gary a été assez franc, et c'est très bien, ce que beaucoup de Portugais ne l'auraient peut-être pas fait. Il a été monstrueusement efficace sur le palmarès de son club, sur la régularité au niveau. Il a aussi permis, je ne vais pas dire initié, mais au moins cautionné, vu passer, toutes les choses les plus contestables du football portugais, notamment économiquement, la TPO, le trading, les joueurs qui arrivaient pour une bouchée de pain, qui étaient revendus je ne sais combien à des clubs
tout
amis.
Tout le monde
avec
a
des...
fait ça.
Tout le monde a fait ça. Il a
mais
participé
fait
à ça. Il a participé
pour gagner de l'argent.
Et des entraîneurs aussi.
Ils n'avaient pas le choix surtout.
Auquel il a...
C'est ça.
Oui, alors c'est ce qui a permis peut-être aussi au club portugais,
de survivre économiquement,
au grand club portugais, de gagner des Coupes d'Europe ou de faire mieux que les clubs français, par exemple, avec un championnat moins doté. Dans un beaucoup plus petit pays, des entraîneurs aussi, Mourinho, Villas-Boas, Sergio Conceição récemment. Juste peut-être Gary, un dernier mot aussi des joueurs africains. On a parlé de Madjer, Chancel Mbemba, Vincent Aboubakar,
Benny McCarthy. Il a beaucoup marqué cette époque du FC Porto, parce que on dit que Benfica est le plus gros club du Portugal historiquement et culturellement, mais dans les 30 et dans les 40 dernières années, je peux le dire en plus parce que je suis supporter du Benfica, j'ai aucun problème à le dire. Le plus gros club en termes de résultats ces 40 dernières années, c'est Porto, ouais. Et largement tous leurs titres européens, ils les ont eu depuis la fin des années 80. Ils ont gagné une Europa League en 2011, Europa League en Coupe de l'UEFA en 2003, Ligue des Champions en 2004. Et c'est justement ce FC Porto là des dernières années qui tient aussi le football portugais, même si le Benfica et Sporting font des perfs et vont assez loin en Ligue des Champions parfois ou en Ligue Europa. Celui qui a gagné des titres, celui qui a été le rouleau compresseur et qui a apporté des titres énormes au Portugal,
c'est le FC Porto
sur les dernières années.
Merci.
Et Benny McCarthy, c'est le joueur africain du FC Porto, c'est le premier auquel on pense, c'est Benny McCarthy.
Allez, dernier mot pour justement, oui ou non, vous êtes d'accord
non,
avec ça?
Moi, Rabat Madjer. Moi, c'est
bon.
Rabat.
Ah, c'est...
Même si j'aime bien Benny.
Vous aimez bien l'Afrique du Sud, alors j'étais...
Non, c'est Rabat Madjer.
Je que vous auriez
Rabat
dit.
Ah, mais il y a énormément d'affection pour Rabat Madjer. Ah,
oui. Merci beaucoup, Gary de Jésus, de nous avoir fait...
Avec plaisir.
Salut, Gary.
Profiter de votre science sur le football portugais. Merci, Marc Libra. Merci Naimoniol, merci.
Obrigado
Franck Simon. Obrigado Laurent Salerno demain à Nigastic.